Perturbation des vols Air KLM, la compagnie fait face à une panne électrique sur l'aéroport de Lifou et un blocage des coutumiers à Marais. Dans ce journal, vous retrouverez évidemment la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. L'Alliance des infirmières calédoniennes a adressé un courrier aux institutions. Elle souhaite que le territoire signe la charte pour le changement portée par le Conseil international des infirmières. À l'étranger, une cinquantaine de pays ont pris contact avec l'administration Trump. Ils vont tenter de négocier à la baisse ou demander la suppression des hausses des taxes douanières. Et puis en métropole, le meeting de soutien au Rassemblement national à Marine Le Pen. Il a rassemblé 7000 personnes. Dans le même temps, LFI et les écologistes ont manifesté contre l'extrême droite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal et comme chaque lundi, l'actu sport sera développé dans le magazine des sports du lundi. Bonjour Léo Fichou.
Bonjour Jean-François.
Nous parlerons notamment football, le PSG et sacré champion de France n'est pas une surprise.
C'est pas une surprise et c'est la 13e fois de l'histoire du club, les Parisiens qui ont battu Angers sur le plus petit des scores ce week-end, 1-0. Ce matin en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l'OM a récupéré la 2e place du classement après avoir battu Toulouse 3-2. Monaco qui s'est incliné complète le podium.
Et en Formule 1, Max Verstappen a remis les pendules à l'heure.
Le Néerlandais a remporté le Grand Prix du Japon devant les McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri. Charles Leclerc termine 4e côté français. Isaac Hadjar termine 8e. Il marque les premiers points de sa carrière en Formule 1. Pierre Gasly 13e. Esteban Ocon 18e.
Et puis on parlera dans la page consacrée à l'actualité sportive en Calédonie de tennis de table.
Notre invité sera Claude Hugo, trésorier et ancien président de l'AS Magenta Tennis de Table. Le club de l'AS MTT qui a organisé ce week-end la 18e édition de son tournoi annuel. Un tournoi synonyme de début de saison. C'était la première manche du Calédonie Elite Tour.
On se retrouve pour le magazine des sports du lundi dès la fin de ce journal. Les routes calédoniennes doublement endeuillées ce week-end. On a appris ce matin qu'un homme d'une soixantaine d'années est décédé hier vers 17h près de la tribu de Coapin à Poya. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue. Son corps a été retrouvé à l'extérieur de la voiture. Il ne portait vraisemblablement pas de ceinture de sécurité. Le passager a quant à lui été légèrement blessé. Et puis toujours hier, un homme de 60 ans a perdu la vie dans un accident à Païta sur la RN5 dans le secteur de Bangou. Selon les premières constatations, le conducteur aurait fait un malaise et sa voiture a ensuite percuté un poteau. Le chauffeur est décédé tandis que son passager est sorti indemne de l'accident. Ces deux décès portent donc à 10 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Et puis, autre accident à signaler, accident matériel sur la voie express. Il a eu lieu samedi soir. Un véhicule a été repéré à 23h15 en roulant à contresens au niveau de la sortie Apogoti à Dembéa. Il a continué direction Nouméa avant de prendre la dernière sortie vers Ducos et c'est là qu'il a percuté frontalement une autre voiture. Seul le conducteur du véhicule en cause a été blessé dans l'accident. Je vous le disais en titre, le trafic aérien domestique est perturbé aujourd'hui. Au moins un vol à destination de Lifou a été annulé ce matin en raison d'une panne électrique sur l'aérodrome de Wanaham. Air Calédonie indique sur son site internet que des perturbations sont à prévoir dans les prochains jours liées à ces aléas techniques. Et puis les vols sont quant à eux tous annulés entre Marais et la Grande Terre. Il s'agit cette fois-ci d'une conséquence des actions des coutumiers. Ils ont décidé, pour exprimer leur mécontentement face à la hausse des prix et le projet de déménagement d'Aircal vers Tontouta, de bloquer l'aérodrome de La Roche. Écoutez le grand chef Hippolyte Sinewami.
C'est en réponse à la non-venue, en tout cas, des membres du gouvernement et puis d'Aircal à la dernière réunion qui était prévue jeudi dernier. Parce qu'on devait normalement fermer lundi. Lundi, on a reçu un message comme quoi ils allaient se déplacer jeudi. Et jeudi, tous les Sinégonais ont été surpris que le gouvernement et Aircal n'étaient pas là. Donc c'est en réponse en tout cas à cette prise de considération en tout cas envers le peuple de Négoné que les coutumiers de Négoné ont décidé de fermer pendant 2 jours. En tout cas, de bloquer Aircal pendant 2 jours. Voilà, ça ne prend pas en compte les évasions, tout ça, là, et puis les ravitaillements, tout ça. Là. Pour le moment, on bloque jusqu'à demain, parce qu'on sait aussi qu'il y a les vacances scolaires. Mais les discussions, nous, on le redemande, parce qu'il faut venir discuter avec le peuple de Négoné.
En attendant, l'aérodrome de Marais reste fermé aujourd'hui et demain. Et puis la compagnie Air Calin affiche aussi des perturbations sur sa ligne Nouméa à Bangkok. Un appareil a été immobilisé dans la capitale thaïlandaise pour des raisons techniques. L'avion est opérationnel et les passagers ont pu décoller de Bangkok à 10h pour une arrivée prévue à Nouméa à 23h50 ce soir. Et on poursuit ce journal comme chaque lundi avec la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Manuel Valls veut un accord global sur l'avenir institutionnel. Il le veut à tout prix et il est prêt à toutes les concessions et à tous les sacrifices. Il est prêt pour cela à revenir autant de fois qu'il le faudra en Nouvelle-Calédonie et même plusieurs fois par mois. malgré la sollicitation pressante des autres collectivités ultramarines. Pour un accord, il est prêt à subir des heures de palabres, de discussions et de négociations. Il est prêt à supporter des querelles byzantines sur un mot et une expression. Il est prêt à avaler toutes les couleuvres. Il est prêt à tout. Et même à mettre la pression sur ses partenaires calédoniens, en agitant le principe de conséquence et en leur affirmant que chacun sera comptable de ses choix devant les Calédoniens. Il déclare aussi qu'un échec n'est pas envisageable et qu'un échec serait terrible pour la Nouvelle-Calédonie. Un discours d'auto-persuasion qui l'amène à dire avant son départ qu'une étape décisive a été franchie et qu'il croit, tout en restant prudent, qu'un accord est possible lors de son retour à la fin du mois. Ses interlocuteurs sont plus circonspects. Et si personne n'a dévoilé le contenu du projet d'accord politique remis par le ministre, on sait au travers de quelques indiscrétions que les négociations n'ont pas dépassé le stade des premiers considérants du texte qui en compte 9. Mais Manuel Valls veut y croire pour des raisons que chacun peut comprendre et parce qu'on l'a déjà dit, il joue en quelque sorte sa réputation et son avenir politique. Il tient là la chance d'inscrire son nom dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et il veut prouver qu'il peut faire mieux que le cornu Darmanin et les autres. Il a déjà marqué des points avec une méthode que tout le monde a acceptée et saluée. Il a aussi réussi l'exploit de réunir tout le monde autour de la table et d'obtenir qu'aucun d'eux ne claque la porte, même si on se demande ce qu'il a fait miroiter à l'UCFLNKS pour la convaincre de renoncer à ses éléments incontournables. Mais c'est maintenant que le plus dur commence, tant les positions restent éloignées sur de nombreux sujets. Et c'est normal puisque l'on parle d'autodétermination, de compétences régaliennes, de gouvernance, de corps électoral et de citoyenneté. Autant de thématiques sur lesquelles tout ou presque opposent les indépendantistes et les partisans de la France. Et puis il y a le poids des mots, la loi fondamentale, le peuple calédonien, le lien avec la France, la mention ou non de Naville-les-Roches. Autant de thèmes sur lesquels les divergences sont fortes et pratiquement inconciliables. Le ministre des Outre-mer appelle ses interlocuteurs à ne pas rester figés dans leur posture ou dans le confort d'un discours. Mais chaque mot, chaque expression peut recéler un piège. Et tout le monde autour de la table en a conscience, alors qu'il s'agit de trouver une solution pérenne, voire définitive, pour la Nouvelle-Calédonie. Surtout que le danger est partout, quand on voit la dernière provocation du groupe Initiative Bakou qui propose sa médiation dans les négociations sur l'avenir institutionnel. Comme s'il n'était pas déjà un peu présent dans ces discussions, avec la participation au sein de la délégation UCFLNKS de plusieurs de ses agents d'influence. Autant dire que personne n'a intérêt à un accord à n'importe quel prix. Et si l'on comprend les nécessités d'un accord qui facilitera une relance de l'économie, chacun voit les dangers d'un accord qui serait conclu sous la pression et dans la précipitation. Et d'ailleurs, au point où on en est, sommes-nous si pressés ? Tout porte à croire que malgré son impatience, Manuel Valls devrait encore effectuer quelques voyages avant de conclure un accord introuvable.
C'était la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que vous pouvez évidemment réentendre sur notre site internet ou réécouter cet après-midi juste après le flash de 16h. Il est 11h39, on va marquer une première pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tu étais où ?
Avec Max, à la maison.
Max ? Mais c'est qui Max ?
Max, la nouvelle plateforme incluse dans les offres Canal+. Tu sais, les contenus HBO, Warner Bros, DC, Harry Potter et bien plus encore. En ce moment, la formule découverte plus option Max est à seulement 1500 francs par mois, donc j'en ai profité.
1500 francs par mois ? Ah ouais, c'est génial !
Allez, viens, on va se mater Game of Thrones et ensuite on attaquera la nouvelle saison de The Last of Us.
Offre valable jusqu'au 30 avril pour tout nouvel abonnement de 24 mois à la formule découverte. Bénéficiez d'un tarif remis à 1500 francs par mois, plus option max, sans frais supplémentaires pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé et à cette occasion, l'ADIC, l'Alliance des infirmières calédoniennes, a adressé un courrier aux institutions dans lequel elle souhaite que le territoire signe la charte pour le changement portée par le Conseil international des infirmières. L'ADIC aimerait que cette signature symbolique ait lieu le 12 mai à l'occasion de la journée internationale des infirmières. Écoutez Coralie Lévesque, la présidente de l'ADIC.
Qu'on demande par le biais de la signature de cette charte, c'est vraiment un engagement au niveau des politiques de Nouvelle-Calédonie de tout mettre en œuvre pour promouvoir la profession, la revaloriser, améliorer les conditions de travail. C'est vraiment symbolique, hein. Dans les faits, ça ne va pas changer demain la vie des infirmiers sur le terrain qui actuellement connaissent des conditions d'exercice catastrophiques. Mais on espère en tout cas déjà faire évoluer les mentalités et que les politiques prennent conscience qu'il y a un enjeu extrêmement capital de pouvoir attirer et retenir les infirmiers sur le territoire, puisque vous savez qu'actuellement, on va rentrer dans une pénurie mondiale de professionnels infirmiers. Les chiffres en France, la DRIS annonce à l'horizon 2030 déjà un manque de 30 000 infirmiers rien qu'en France. Au niveau mondial, l'OMS annonçait une pénurie de 10 millions d'infirmiers. Donc autant vous dire que dans les 5 prochaines années, ça va être un enjeu majeur de santé.
Et pour l'ADIC, la signature de cette charte pour le changement pourrait aussi être l'occasion de reconnaître publiquement le travail et l'engagement des infirmiers lors des violences de mai dernier.
C'est très important pour tous ceux, dans tous les cas, qui étaient sur le pont pendant les émeutes. Et je peux vous dire que si ça a tenu tout ce temps, c'est essentiellement lié à l'engagement des professionnels sur le terrain et à rien d'autre. Et je peux vous dire que l'engagement était fort parce qu'on nous a raconté des situations qu'on ne pense pas pouvoir vivre un jour, en fait.
L'ADIC a donc porté ses propositions à la connaissance des élus, des institutions, mais aussi des autorités sanitaires au travers d'un courrier qui leur a donc été adressé ce matin. Les enfants entament la première de leurs 2 semaines de vacances scolaires aujourd'hui. C'est l'occasion pour certains de faire une pause et de se consacrer à d'autres activités. Au Mont-d'Or, les stages de vacances ont commencé ce matin pour les 6-12 ans sur le thème de la nature. Les enfants ont pu découvrir la course d'orientation ce matin, un exercice qui leur a plu malgré les difficultés.
Je suis un ami des forêts et des prairies.
Bah, faut trouver des balises, il y a des numéros sur la carte.
Par exemple, il y a des images et après on doit essayer de deviner c'est quoi le mot.
J'avais jamais fait ça.
Tu penses que vous allez gagner avec votre équipe ?
Pas du tout. Alors on est à la première balise parce qu'on n'avait pas compris le truc. Et les autres, ils sont au moins à la quatrième balise.
J'aime bien, ça fait du bien, on découvre un peu tout ça, on s'amuse beaucoup. J'aime bien les chasses au trésor, courir, j'adore ça. Les chasses d'orientation, c'est une de mes premières fois et je trouve ça cool, c'est drôle.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson, les enfants pourront participer cet après-midi à des ateliers culturels. Et puis le retour depuis ce matin d'un jeu que vous connaissez sur Radio Rythme Bleu, que vous aimez ou que vous allez découvrir, c'est évidemment le Totem. Le Totem, un jeu qui vous propose de découvrir un objet mystère. Du lundi au vendredi à 9h15 et à 16h15, vous nous appelez au 25 46 46 et vous posez une question en direct à l'antenne pour caractériser le Totem. Est-il bleu, est-il rond, est-il en bois ? Si la réponse est négative, vous pourrez retenter votre chance dès le lendemain. Si la réponse est oui, alors vous pouvez formuler une proposition de ce que serait le fameux objet mystère et peut-être deviner le totem et remporter la cagnotte. Une cagnotte qui augmente de 1000 francs à la fin de chaque jeu avec à la clé un bon d'achat chez notre partenaire, les marques calédoniennes et tricorayées. Le totem, c'est simple, drôle, instructif et ça peut rapporter gros. C'est un jeu animé par Thierry. Et on peut dire qu'après la reprise du totem ce matin, il n'y a évidemment pas de gagnant puisque personne n'a encore trouvé l'objet mystère. Rendez-vous donc à 16h15 cet après-midi. En attendant une nouvelle pause avant de voir l'actualité à l'étranger et en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Kiabi, partenaire de votre pouvoir d'achat. Les best-sellers chez Kiabi, c'est votre sélection incontournable de vêtements au meilleur rapport qualité-prix. Des pièces stylées, confortables et indispensables pour petits et grands, comme le t-shirt imprimé filles ou garçons à 290 francs. C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Rendez-vous en magasin ou sur kiabi.nc.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et les bourses mondiales continuent leur dégringolade. L'économie mondiale est bouleversée depuis la décision de Donald Trump d'augmenter les droits de douane pour les produits entrant aux États-Unis, Nicolas Legrand.
Oui, une taxe payée par les consommateurs et qui devrait rapporter, selon Donald Trump, 700 milliards de dollars à l'administration américaine et permettre également la réindustrialisation des États-Unis. Une mesure de protectionnisme qui n'a pas été expliquée par l'administration américaine, mais les taux auraient été calculés en fonction de la balance commerciale que le pays entretient avec les États-Unis. Mais il demeure beaucoup de zones floues. C'est ce que nous a dit ce matin Gaël Lagadec, professeur des universités en économie et spécialiste des États-Unis.
On ne sait pas pourquoi tel pays, pas tel autre. Par exemple, la Russie n'est pas concernée. Les Américains disent que c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de sanctions. Mais on voit aussi que parmi ceux qui ont la taxation minimale, il y a l'Iran et l'Afghanistan, qui sont des pays historiquement antagoniste des États-Unis. Et puis Israël, qui est sûrement le pays qu'ils soutiennent le plus, lui se voit quand même taxé à 17%. Donc on voit pas non plus de visée géopolitique dans cette liste très disparate et difficile à interpréter. C'est comme une déclaration de guerre commerciale à l'ensemble du monde, avec l'idée un petit peu peut-être paranoïaque que le reste du monde profite des États-Unis et que donc il faut faire payer ces pays pour les déficits qu'ils causent aux États-Unis et puis également pour le parapluie en termes de défense militaire dont bénéficient quantité de pays au détriment des États-Unis puisque les pays notamment européens dépensent beaucoup moins que les Américains pour leur défense.
Et immédiatement après la déclaration de Donald Trump, une cinquantaine de pays a déjà annoncé vouloir négocier avec les États-Unis en espérant voir ses droits de douane revus à la baisse.
On l'a vu déjà depuis le début du mandat de Trump, il y a parfois des annonces tonitruantes dont la mise en œuvre est différée dès lors que les pays entrent en discussion. Et la force économique, la force militaire des États-Unis fait que évidemment, il y a beaucoup de pays qui vont essayer de négocier, de passer aux yeux de Trump pour des bons élèves, pour avoir des diminutions de taxes. Dans l'esprit qu'on connaît de Donald Trump, tout est affaire de négociation et de rapport de force. Donc, il tape fort. Et pour ceux qui rentreront dans le jeu de la discussion, il y aura un rétropédalage qui fera aussi œuvre de pédagogie pour les autres. Ça montre que si on accepte de courber les Chines, ben on est quand même récompensé ou moins puni.
La Chine est le pays le plus touché avec une hausse de 34% qui s'ajoute aux 20% déjà annoncés en mars dernier. Un bras de fer commercial qui pourrait aussi créer des tensions diplomatiques dans la région, selon Gaël Lagadec.
Ce qui va devenir difficile, c'est pour les pays, notamment dans le Pacifique, ceux qui souhaitaient rester équidistants des États-Unis et de la Chine, ne pas choisir. À partir du moment où les deux grandes puissances sont en guerre de moins en moins larvées, chacun va devoir choisir son camp. Et par exemple, l'Inde va tenter de négocier certainement un abaissement tarifaire avec l'administration américaine. L'Inde est taxée à 26%, donc se rapprocher des États-Unis sans doute en courbant les Chines. Mais l'Inde était en train aussi d'apaiser ses relations avec la Chine, donc ça risque d'être le grand écart et pas pour un petit pays, pour le pays le plus peuplé.
Et signalons enfin que contrairement à la métropole et aux Outre-mer comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ne figure pas sur la liste des pays et territoires concernés par cette hausse des droits de douane aux États-Unis.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Êtes-vous choqué par la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump? Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Quant à cet entretien avec Gaël Lagadec, sachez qu'il est évidemment disponible en réécoute audio et vidéo sur notre site internet. L'actualité à l'étranger, c'est aussi le déplacement du ministre français des Affaires étrangères en Algérie. Jean-Noël Barrot s'est entretenu avec le président Abdelmadjid Tebboune. Il s'agissait d'évoquer une normalisation des relations relations après plusieurs mois de fortes tensions, notamment sur la question d'expulsion de France de ressortissants algériens refusés par Alger. Jean-Noël Barrot et le président algérien ont parlé de normalisation des relations après avoir évoqué les questions sécuritaires, migratoires ou encore judiciaires. Reste le cas de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien emprisonné depuis 4 mois et condamné à 5 ans de prison dans un procès qualifié de parodie par de nombreux observateurs. Jean-Noël Barrot a appelé le président algérien à un geste d'humanité. C'est trop peu, estime Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal.
Nous sommes très déçus parce que on pensait que l'une des conditions quand même de reprise d'un dialogue, c'est de mettre parmi les priorités la libération de Boualem Sansal, qui, je le répète, est emprisonné maintenant depuis plus de 4 mois et demi, ne bénéficie pas des droits élémentaires que tout justiciable est en droit d'attendre, qui est malade, qui a 80 ans. Maintenant, il est évident qu'on attend un peu plus de détermination et d'énergie face à une situation qui est en tout point scandaleuse. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse aboutir très rapidement. Et on ne peut pas dire que les mots aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères nous rassurent de ce point de vue.
Arnaud Benedetti, le fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal. En métropole, ils ont compté leurs forces dans les rues de Paris. Le Rassemblement national a organisé un meeting de soutien à Marine Le Pen la nuit dernière pour nous. Plusieurs responsables du parti ont pris la parole, dont la chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale. Et elle a vivement remis en cause la décision judiciaire à son encontre et notamment la peine d'inéligibilité qui la prive pour l'instant, en attendant son procès en appel, de la course à la prochaine présidentielle.
Qui peut justifier qu'étant présumé innocent, en ayant interjeté appel, nous puissions être malgré tout rendus inéligibles par le bon vouloir d'une décision dont les plus acharnés de nos adversaires peinent à justifier l'argumentation juridique de façade. Pire, que le droit à un recours effectif soit présenté dans cette décision pénale comme un privilège.
7000 militants et sympathisants ont répondu à l'appel du Rassemblement national, place Vauban, alors que la France insoumise et l'écologiste ont mobilisé 5000 personnes, place de la République, dans une manifestation contre l'extrême droite. Et ce n'est pas tout, puisque Gabriel Attal a lui aussi rassemblé 5000 partisans de la majorité présidentielle à la Cité du cinéma à Saint-Denis. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
C'est un véritable duel à distance qu'a tenté de mettre en scène Gabriel Attal tout à l'heure à la Cité du cinéma où il réunissait ses militants. Alors que d'une part, la chef de file des députés RN dénonce depuis la place Vauban une véritable chasse aux sorcières et une atteinte à la démocratie.
Le jugement dont l'argumentation a presque fait l'unanimité contre elle des juristes sérieux. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Que chacun soit rassuré, je ne lâcherai rien.
L'ancien Premier ministre lui répond dans son propre discours à Saint-Denis quelques instants plus tard et va jusqu'à interpeller directement Marine Le Pen sur sa condamnation.
Souvent, RN varie et il est devenu le parti du deux poids, deux mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. Comment être crédible face à un mineur délinquant ? Si les politiques n'ont pas à respecter les règles. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique.
Et le nouveau secrétaire général de Renaissance va plus loin puisqu'il taxe ensuite l'élu des nains Beaumont de groupie du trumpisme en faisant référence au soutien apporté par la Maison-Blanche ou encore par le milliardaire américain Elon Musk. Manière de tenter de jouer le match 2 ans en avance, de s'ériger en seul rempart du RN en adversaire principal de Marine Le Pen et de revenir par la même occasion sur le devant de la scène quelques mois après son départ de Matignon.
L'actualité en métropole, c'est aussi l'interpellation de 3 jeunes âgés de 19 à 24 ans dans le Nord. Ils ont été mis en examen, accusés de préparer un attentat à la ceinture explosive. Claude Moniquet est le spécialiste sécurité d'Europe 1.
La fabrication de la ceinture était en cours, la ceinture explosive. Il est probable qu'ils étaient sur un projet qui devait se concrétiser très rapidement. Il y a plusieurs cibles qui sont évoquées. Ils ont discuté entre eux de cibles dans la communauté juive. Ils ont parler aussi d'un assez bizarrement d'ailleurs, d'un centre d'accueil pour jeunes. On évoque aussi des cibles proches de l'autorité. La seule certitude qu'on a, c'est qu'avec le type d'engin qu'ils sont en train de fabriquer et l'inspiration, puisqu'il y a des références entre autres au Bataclan, l'idée c'était l'attentat massacre. C'était faire le maximum de victimes dans un lieu clos de manière à maximaliser les effets de l'explosion.
Voilà, un projet d'attentat a priori déjoué puisque ces 3 jeunes ont été interpellés et mis en examen.